Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Héroïne, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans les héroïnes. Aujourd'hui, je suis avec Michel, Zéna, Lady et Régine, membres du collectif Kouné, qui viennent faire le point sur la situation à Villejean et nous parler d'un événement qui a lieu dimanche. Je reçois en deuxième partie d'émission Léa, aka Chocapic, et Lucille, aka Cuicuit, membres de Roller Derby Rennes et du collectif Fulmine, pour parler de ce sport militant, féministe et inclusif, et d'un événement qui a lieu demain, samedi 21 juin, à la patinoire de Rennes. Il y a un mois, nous recevions Régine Comocoli, élue du département et cofondatrice du collectif Kouné Faire Ensemble à Villejean. On avait alors évoqué la situation dans ce quartier de Rennes en proie au trafic de drogue. Aujourd'hui, Régine est revenue avec trois membres du collectif. Régine, je vous laisse la parole et nous présenter vos co-animatrices du jour.
Merci beaucoup, bonjour. Merci pour cette invitation. Effectivement, il y a un mois, j'étais là pour dire un peu finalement, sans beaucoup d'espoir, la réalité du quartier. Bah, depuis, les choses n'ont pas vraiment avancé. En tout cas, c'est de pire en pire. Donc là, je suis avec Michel, mais bon, après, je vais laisser les filles, elles vont parler. Et c'est aussi l'objectif d'être là, mais c'est encore plus compliqué. Il y a de plus en plus de violence. C'est vrai qu'on a l'impression que comme il n'y a pas les balles, il n'y a pas des armes, donc on n'en parle pas, mais il y a autant de violence, hein, Michel.
Tout à fait. Donc bonjour, merci à tous d'écouter cette radio. Je m'appelle Michel, je fais partie du collectif Kouné et je suis aussi présidente d'une association qui est basée aussi sur Villejean. Donc avec ce collectif, on fait plein d'actions et c'est vrai que depuis un mois, il y a un peu l'omerta, un peu dans notre quartier.
Comme il n'y a plus de fusillades et d'événements de faits divers extraordinaires, on n'en parle plus, on met la poussière sous le tapis.
Il y a ce jeune là qui a été tabassé, abandonné dans les escaliers. Il y a deux jours à peine, il y avait une violence aussi avec des couteaux sur la dalle. Donc en tant que maman, c'est très compliqué cette violence et on est très démunis, on ne sait plus quoi faire, donc c'est épuisant. Et je te regarde Zéna, parce que je sais que toi t'aimes bien qu'on aille au parc, je te laisse parler ça.
Mais... Oui, bonjour, je m'appelle Zéna, et c'est vrai, on aimerait bien aller au parc sans avoir peur avec les enfants. Mais vu ce qui se passe à la dalle, on a peur d'aller avec les enfants, ils sont tout petits, et on n'a pas envie qu'ils insistent de ce qui se passe là-bas.
Oui, et puis qu'ils puissent aussi malheureusement prendre
C'est des
bagarres au couteau, des bouteilles, c'est très difficile. C'est très difficile, comme la presse n'en parle pas, donc en ce moment c'est un faux calme. Et donc en ce moment on attend et on est dans les angoisses encore. Ouais.
Et pour autant, là vous parliez d'un jeune qui a été tabassé et laissé dans une cage d'escalier.
Mmh. Oui, tout à fait, il a été tapé à la matraque, à la barre de fer. Mmh. Il a été abandonné dans un hall d'immeuble à Villejean et c'est un voisin qui l'a retrouvé et qui lui a un peu sauvé la vie en fait.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Il était inconscient.
Et puis sur la dalle, c'est pareil, c'est des couteaux. Alors, d'après ce qu'on entend, il ne faut pas en parler, il faut rester un peu... En gros, il ne faut rien dire. Tant que ce n'est pas les balles, il ne faut pas apparemment énerver encore plus des gens qui sont déjà angoissés. Mais en fait, la réalité, c'est que nous, on est là, hein, Lady. Donc
Et vous le voyez, quoi, et vous le vivez, donc...
C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, un mois après, le constat, c'est comme il n'y a pas des balles limite, il faudra qu'il y ait des armes pour qu'en fait, on puisse s'intéresser et amener encore un peu plus de moyens. Sauf que là, c'est les armes, comment vous dites ça, les armes blanches. Rien. Il ne se passe rien.
On remarque quand même qu'il y a quand même la police sur place. Encore tout à l'heure, j'étais dans le quartier, ils faisaient des contrôles. Mmh. Donc ils sont présents, mais ils ne sont pas présents tout le temps.
Et est-ce que là, ce n'était pas les contrôles lancés par le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui, voilà, pour déloger les sans-papiers et les gens en irrégularité, hein, la chasse aux...
C'est ça. Voilà, malheureusement, finalement, la police est là pour autre chose et pas forcément pour la même raison que nous, on demande la sécurité pour tous. En fait, c'est pour contrôler encore. Et ça ne répond pas aux besoins, les vrais, enfin, le vrai sujet, en fait, quoi.
Et vous parliez aussi, avant qu'on prenne l'antenne, vous m'avez parlé de tous jeunes enfants qui sont en fait embrigadés par les dealers. Vous pouvez nous en dire plus sur ces affaires?
Oui, en fait, dans le quartier, on les appelle shoot, mais c'est normalement, pour que les gens comprennent, c'est des guetteurs.
Des jeunes guetteurs,
c'est des guetteurs,
c'est
oui,
des enfants 10
ans
et
11 ans, ouais, qui sont utilisés pour prévenir la police en cas de descente.
Il faut savoir que c'est quand même des enfants de 9-10 ans, pas des enfants qui sont encore à l'école primaire. Donc j'alerte là-dessus, c'est un vrai souci. Là, je me dis, on monte encore notre cap et c'est encore nos enfants qui sont en danger, parce que ce sont les enfants en danger et personne n'en parle. Et ça, c'est un vrai sujet. Et des fois, en tant que mère, parce qu'on est maman, tout ici, et on n'est pas toujours au courant. C'est des gamins qui touchent 150, 200 euros quand même, quoi.
C'est ça, c'est des gamins qui sont rémunérés par les dealers pour faire la chouf, donc effectivement, guetteur et crier ara dès qu'il y a la police qui apparaît et qui touchent de l'argent. Oui. Jusqu'à 150 euros et donc ils peuvent ramener ça aussi à la maison et ça fait 2-3 pleins de courses. Donc c'est, bah, je dis ça parce que volontairement pour dire il y a un problème social en France. Tant qu'on ne le réglera pas, on aura ce genre de problème.
D'accord. Je suis d'accord avec vous parce qu'en fait, là, j'ai regardé les chiffres il y a une semaine où on parlait de l'indice, vous savez, de position sociale où il y a des parents qui touchent 600-700 euros. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier le plus pauvre. Donc, imaginez une famille, une maman qui touche ce montant-là alors que son gamin, en 3-4 jours, gagne un peu plus. Donc, ça laisse en fait à comprendre quand même qu'on est dans une grande souffrance sociale et c'est quand même incroyable, on est en France. Et que Vigeon est aussi un quartier de Rennes et qu'on mérite aussi une considération sociale. Donc il faut une urgence politique et c'est vraiment une alerte, quoi.
Et dimanche, il se passe quoi? Vous organisez quoi, mesdames?
Ouais, dimanche, donc en fait, il y a un grand événement. Tous les habitants et habitants du quartier, mais pas que de Vigeon, je l'avais rappelé déjà, nos problèmes, c'est le problème de tous les Rennais et Rennaises, de venir, qu'on puisse manger, chacun amène à boire et à manger. Puis en plus, c'est la continuité de la fête de la musique, donc même s'il y a des musiciens, vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est, le titre, c'est que « Et si on se parlait ?» Voilà, si on commençait déjà à se parler, du coup, on va peut-être apporter une réponse parce qu'on pense que la réponse va venir d'en bas, même si les moyens viennent d'en haut. Donc, c'est un peu ça.
Et puis, c'est peut-être aussi occuper l'espace, dire aux trafiquants, on est là, on est chez nous, on prend l'espace que vous nous avez confisqué et que vous rendez dangereux. C'est l'idée aussi.
C'est ça, c'est on prend l'espace, on ne quitte pas. Comme Lady dit, comment tu dis souvent? On est là, nos bougies, comment tu dis?
C'est notre quartier, donc on va se battre pour notre quartier, pour nos enfants.
Oui, c'est reprendre, vous réapproprier l'espace de votre quartier et pas les laisser semer la peur et la terreur. Quoi,
c'est un peu l'ADN aussi du collectif Cuiné, hein, c'est-à-dire qu'on occupe l'espace, on se bat parce que c'est notre quartier.
On est là, on ne nous attend pas.
Et on vient là, on ne nous attend pas, mais vous comprenez bien, en tant que mère, on n'a que ça. Donc voilà, les mamans sont là et on est des femmes et on va se battre pour nos enfants. Comme c'est pour nos enfants, en fait.
Comme on fait toujours des activités, on essaie d'occuper tant qu'on peut la dalle, mais des fois ça devient dangereux, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, vous le faites avec la peur au ventre et puis pas aidé par les forces de l'ordre qui viennent pour d'autres raisons. On l'a expliqué, il y a une grande opération là en ce moment, ces jours-ci,
lancée par Retailleau. Et ça nous préoccupe aussi parce que tout à l'heure, on voyait ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on parle des migrantes et migrants, mais dans le collectif, on en a aussi des personnes sans papier qui luttent aussi, qui se battent aussi pour l'intérêt des autres, notamment sur la question de la violence faite aux femmes, les clandestines. Il y a des femmes sans papier qui traduisent aussi la langue et ce sont nos copines aussi qui sont en danger, qui sont là et qui méritent d'être régularisées et restées. Donc, il y a cette angoisse et en fait, on la porte aussi. Donc, ça vient se rajouter encore des problématiques. Donc, si vous voyez, les policiers à Vigeon, ils ne sont pas tous là que pour nos sécurités, ils sont pour d'autres raisons et malheureusement.
Et des nouvelles de la ministre de la Ville dont on avait parlé il y a un mois parce qu'elle était venue faire de l'image, de la com sur la dalle. Et puis, je crois que depuis Silence Radio, c'est toujours Silence Radio du côté du ministère.
On n'a pas dit jusqu'à maintenant.
Silence fausse radio.
On n'a pas de nouvelles du tout. Il y a rien qui se passe.
Des promesses.
Ouais, elle nous a promis des choses, mais il y a rien qui s'est passé.
Elle est venue pour la photo et pour faire.
Mais elle avait eu sa photo, hein, donc elle est repartie avec sa photo. Donc elle nous a laissé comme ça.
Donc voilà, c'est toujours la même histoire, le quartier. Ah alors il n'y a pas de gros. On l'a dit, il n'y a pas de gros faits divers avec des balles perdues ou des ados qui se prennent une balle, mais ça reste toujours une insécurité très grande, de la crainte pour les enfants, des enfants qui sont recrutés très très jeunes à l'école élémentaire, et puis des tabassages comme ça.
C'est ça. Et on a peur parce que personne n'est à l'abri. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Moi, je vous dis, c'est quand même, on parle des grosses sommes. Et puis aussi derrière, il y a les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment pour le coup très, très inquiète en tant que mère. Parce que pour beaucoup, on est des mamans entre nous. Et là, on attend un peu de dimanche. Ça va être aussi, je pense, le sujet. C'est comment on s'organise en tant que mère pour pouvoir faire le rôle, en fait, des pouvoirs publics. Et c'est vrai que, Madame la ministre, franchement, on ne traite pas les résistantes comme ça. Parce que c'est comme ça qu'elle avait dit, c'est on vrai. Est des résistantes. Mais là, les résistantes sont un peu démunies, là.
On comprend votre colère et votre détresse. On se donne rendez-vous dimanche, donc c'est le 22 juin. À partir de quelle heure?
À 15h jusqu'à 18h sur le square Saumurois. Donc c'est un autre... D'autres espaces, puisqu'on ne peut pas occuper la dalle, donc c'est à côté, mais les habitants, les gens, ils savent. Et entre 15 et 18 heures, tout le monde est invité.
Venez nous rejoindre.
Eh bien, le message est passé. Merci à vous, mesdames, du collectif Kouné, Faire Ensemble à Villejean.
Merci beaucoup.
Vous connaissez l'effet Mathilda? Non? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est un concept décrit par la suffragette et abolitionniste Mathilda Jocelyn Gage à la fin du 19e siècle. Il s'agit de la minimisation du travail des femmes scientifiques, de l'invisibilisation de ces femmes, voire de leur spoliation, par notamment leur éviction des prix jusqu'au prix Nobel. Ce fut le cas de la chimiste Alice Ball qui a découvert un traitement contre la lèpre. Ce fut le cas de Rosalind Franklin, pionnière de l'ADN, de la française Marthe Gauthier qui a découvert la trisomie 21. Ce fut le cas également de Jocelyn Bell qui a découvert les pulsars, de Mileva Einstein qui fut oubliée contrairement à son mari Albert qu'elle a pourtant grandement aidé. Ce fut le cas de la physicienne Lise Meitner, injustement ignorée au prix Nobel pour ses découvertes sur la fission nucléaire. Ce fut le cas de Françoise Barré-Sinoussi, immunologue et virologue au moment de la découverte du VIH, accaparée par Luc Montagnier. Ou encore le cas d'Ada Lovelace qui a conçu et décrit le premier programme informatique au 19e siècle. Et j'en passe, car la liste est encore longue. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes vigilantes et les hommes scientifiques auraient du mal à s'approprier les découvertes de leurs consoeurs et de s'en octroyer les lauriers. Surtout quand elles sont mises en avant et célébrées par l'UNESCO et la Fondation L'Oréal lors du prix international pour les femmes et la science. C'était la semaine dernière et 5 femmes scientifiques étaient ainsi récompensées. Il s'agit de la Sud-Africaine Priscilla Baker pour sa contribution au développement de microcapteurs électrochimiques ultra sensibles qui permettent de détecter des polluants dans l'environnement. Il s'agit également de l'américaine Barbara Finlayson-Pitts qui a découvert de nouveaux mécanismes de formation de la pollution atmosphérique dont les travaux ont permis de mettre en œuvre des politiques publiques qui ont amélioré la qualité de l'air et donc certainement sauvé des vies. Il s'agit de la chinoise Xiaoyong Wang qui a révolutionné la cryptographie puisque ses travaux ont conduit à l'invention de méthodes de cryptage pour les cartes bancaires, les mots de passe, les transactions en ligne. Également l'Allemande Claudia Felser pour son travail qui a permis la découverte et la création de nouveaux matériaux magnétiques. Et enfin l'Argentine Maria Teresa Dova qui a transformé la compréhension de la physique des hautes énergies. On se félicite de leur succès et de leur mise en lumière tout en regrettant néanmoins de devoir célébrer ces femmes scientifiques puisque on peut se dire que dans un monde normal, juste et équitable, eh bien ce genre de reconnaissance sens n'existerait pas.
It's Britney, bitch. It's Britney, bitch.
On va faire une pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On écoute Maëla Tena, Got Lost Again.
took the wrong train, got lost again. Now I'm alone in my bed, my windows are open. I can hear the ocean and I wish it go away, 'cause it feels like one more mountain on my way. And I got lost again. I closed my eyes, I took his hand, we ran away again. It's too hard to come back from this, I'd rather stay in here. Just leave me in the dark and let me disappear.
C'était Maëla Tena, Got Lost Again, sur Canal B, dans les Héroïnes.
Solo si es si, hermana, yo sí te creo.
Ça, c'était la voix de l'ancienne ministre espagnole de l'égalité, Irene Montero. On sait l'Espagne très à la pointe dans la lutte contre les violences faites aux femmes. S'il fallait une nouvelle preuve, la mini-série Querer serait celle-ci. En espagnol, le verbe querer signifie à la fois aimer et vouloir, subtilité de la langue. Querer se passe à Bilbao, capitale du Pays basque espagnol, où Miren, 53 ans, porte plainte contre Inigo après 25 ans de mariage et de viols conjugaux. Elle semble avoir tout préparé, Miren. Elle a une avocate, elle a mis un peu d'argent de côté et elle quitte le domicile familial bourgeois. Mais c'est plus compliqué qu'il en a l'air, parce qu'elle semble bien triste, Miren, très effacée. Et on entend qu'elle serait psychologiquement fragile, instable, et qu'au final, peut-être qu'elle s'ennuie, peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle est ingrate, et que lui, Inigo, n'a fait que la protéger. Pourquoi se remettrait-il en cause? Et pourquoi changerait-il de raisonnement? Pourquoi ne continuerait-il pas à diffuser autour de lui, aux amis, à la famille, son argumentaire? Sa femme est vulnérable, car un peu déséquilibrée, lui n'a fait que la protéger. D'ailleurs, sa sœur à lui, quinquagénaire également, lui donne raison en lui disant, deux points, ouvrez les guillemets, Mais quelle horreur, t'accuser de viol conjugal, c'est absurde, elle n'a jamais manqué de rien. Faut qu'elle arrête de dire des conneries. Dans un couple, c'est normal de pas vouloir tout le temps faire l'amour parce qu'on doit céder. Parfois, on doit céder, comme on cède pour d'autres choses. D'accord, on n'a pas toujours envie. Mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas mettre en tôle tous les hommes de 60 ans. C'est n'importe quoi, tous les grands-pères. Et c'est bien ce que dénonce Kerrer. Outre les mécanismes de l'emprise et de la domination via la violence psychologique, c'est bien le viol conjugal qui est au cœur du récit. L'absence de consentement demandé parce qu'on est marié et que donc on n'a pas à demander. Le plaisir féminin fin pour se débarrasser du mari violeur. Pire, le rapport sexuel alors qu'on est endormi dans le lit conjugal et que c'est la pénétration qui nous réveille. Qui pour dire que c'est un viol. Myrène et Inigo ont eu deux fils et on observe avec ces deux jeunes hommes au fil des quatre épisodes la reproduction, l'atavisme, le processus de rejet de l'inacceptable, mais aussi le doute, la peur, l'incapacité peut-être aussi à entretenir des relations saines et équilibrées. Enfin, à travers la personnalité du mari, on découvre l'humiliation et le mépris distillés avec perfidie dans une société où tout le monde trouve ça normal, voire drôle. On aperçoit l'incapacité d'une génération d'hommes à encaisser la frustration et que l'on contrarie ses décisions. Alors, en réaction, on punit insidieusement et on affiche sa force. On fait la démonstration de sa puissance virile par des conduites inappropriées et intimidantes. On sème la terreur. Un mari qui appartient à un autre monde, le monde d'avant. Myrène, elle, semble alors si forte en s'émancipant de ce monde d'avant, de la soumission, de l'abnégation, en se libérant du joug de son mari, en dénonçant les viols conjugaux. Elle devient certes financièrement précaire, mais elle n'a plus peur ni de lui ni des autres hommes, et ça, ça n'a pas de prix. Je vous conseille donc vivement d'aller regarder cette mini-série Kerrer sur Arte TV, et bien sûr, je vous mettrai le lien sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B pour aller voir cette excellente série, j'insiste.
Solo si es si, hermana, yo si te creo.
Retour en France où vous avez peut-être entendu parler de la situation catastrophique des CIDEF. CIDEF pour Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dont la mission confiée par l'État, c'est important de le souligner, est d'intérêt général et doit permettre l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, ce sont 150 000 femmes qui sont ainsi accompagnées. Sauf que, faute de subventions, ces centres sont en grand danger. Le versement de celles-ci, voté lors du projet de loi de finances 2025, est retardé. Et le versement retardé de ces subventions a déjà entraîné la fermeture des permanences juridiques dans un quart du réseau et la suppression d'une trentaine de postes. Une situation ubuesque, hein, puisque les subventions ont été votées mais elles ne sont pas versées, qui ne peut perdurer au risque de déplorer encore plus de fermetures de permanence, de suppression de postes et de femmes déjà précaires encore plus en détresse. Une menace de baisse de subventions, de fermeture d'antennes, de retrait d'agrément qui plane aussi au-dessus du planning familial dont la situation est très critique. Pour rappel, depuis 60 ans, le planning familial permet l'accès à la contraception, soutient et défend le droit à l'avortement, permet de prévenir les IST, infections sexuellement transmissibles, fait de l'éducation à la sexualité, accompagne les victimes de violences sexuelles. Ça, ce sont pour les grands combats de cette institution. En région Pays de la Loire, Christelle Morancet a supprimé la totalité des subventions allouées à l'antenne du planning familial. Dans la Drôme, le conseil départemental a décidé de fermer 7 des 12 centres de santé sexuelle. Deux exemples dramatiques et inquiétants qui mettent en péril le planning familial. Vous pouvez donc faire un don sur le site du planning familial dont je vous mettrai le lien sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B.
Bijoux, bijoux, pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous.
On reste toujours en France et cette fois on va deviner qui a dit qui a dit, suite à l'assassinat d'une surveillante de collège par un élève de 14 ans il y a quelques jours, deux points, ouvrez les guillemets, l'ultra-féminisation du corps enseignant n'aide pas. Il y a certains profils sur lesquels il faut un rapport de force et quelque chose qui s'exerce de façon presque violente, fermez les guillemets. Est-ce Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, un quelconque masculiniste débile? Non, aucun de ceux-là. Ce sont les propos d'une femme, Natacha Polony, journaliste de 50 ans. Alors, trois gros soucis dans sa déclaration. Un, pour rappel, quand une femme est victime, il n'est pas nécessaire d'aller chercher les raisons dans son comportement, dans ses gestes, dans ses mots. Elle est victime, point, elle n'y est strictement pour rien. Ce que fait Natacha Polony ici, c'est ce que font les gens quand ils demandent à une femme violée ce qu'elle portait, et c'est ignoble. Deux, déplorer la féminisation des métiers en affirmant, comme ici, Natacha Polony, que cela pose problème, eh bien c'est très discutable. Les femmes seraient donc, selon Natacha Polony, le problème. Elles n'auraient pas les mêmes compétences que les hommes, pas la même autorité, la même capacité à gérer des élèves. Elles dévalorisent le métier. Ça, c'est le discours des boomers, notamment ceux qu'on a entendus il y a 20-30 ans, quand ils ont fait le constat de la féminisation de l'éducation nationale et de certaines spécialités médicales comme la gynécologie et la pédiatrie. Forcément, ces métiers perdaient en qualité, selon eux. Trois, enfin, vouloir combattre la violence masculine par la violence masculine, le mal par le mal en somme, n'est vraiment pas la bonne solution, ça n'a jamais fait ses preuves, loin de là. Or, c'est ce que prône ici Natacha Polony, qui parle donc comme une boumeuse rétrograde et conservatrice. En même temps, c'est pas nouveau, mais c'est regrettable. Alors, autre personnage public problématique, Jean-Marc Morandini, condamné en appel en mars dernier à une peine de 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour des faits de corruption de mineurs sur 3 adolescents entre 2009 et 2016. Il est par ailleurs inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et n'a donc pas le droit de fréquenter des mineurs. Mais alors, pourquoi parler de lui? Franchement, on s'en passerait bien. C'est que la situation est grave et démontre encore une fois qu'en France, on protège toujours les prédateurs sexuels et les pédophiles au détriment des victimes, notamment des plus jeunes. Alors attention, hein, c'est pas une blague, c'est pas une info du Gorafi, c'est bien réel. Ainsi, depuis le 6 juin, Morandini est de nouveau à l'antenne d'Europe 1, propriété de Vincent Bolloré, tous les jours pendant 2 heures. Sauf qu'en ce moment, ont lieu les stages des élèves de seconde et Europe 1 accueille des élèves de seconde. Aussi, la station a-t-elle dû mettre en place des stratagèmes pour que ces jeunes ne puissent pas croiser le délinquant sexuel Morandini. Les jeunes stagiaires ont donc été installés dans une salle de l'entresol et leur visite des studios a été organisée en matinée en l'absence du prédateur sexuel. Cette situation totalement lunaire agace une partie des salariés de la radio dont l'un a déclaré « On planque les enfants, mais pas les délinquants sexuels ». Allez, on termine avec une bonne nouvelle. Mercredi, le Sénat a voté pour la modification de la définition pénale du viol pour y intégrer la notion de non-consentement. Le texte prévoit que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. C'est une étape cruciale, en fait, qui a été franchie, là, et dont on se réjouit. Maintenant, une commission mixte paritaire qui va rassembler des députés et des sénatrice va se rassembler, donc va se réunir pour aboutir à un texte commun. Et si la loi est votée, la France rejoindrait les pays qui ont déjà introduit la notion de consentement ou de non-consentement dans leur législation, comme la Suède, l'Espagne et la Norvège.
Solo si es si, hermana, yo si te creo.
Allez, nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On écoute Louise Papier, S'embrasser.
Puis dans la mer,
c'était Louise Papier, son titre « S'embrasser » sur Canal B dans les Héroïnes. Louise Papier qui sera de la programmation du prochain festival I'm From Rennes en septembre prochain. Demain, samedi 21 juin, à la patinoire Le Bliss, de 10h à 18h, le Roller Derby Rennes organise un événement autour de 4 matchs de Roller Derby avec 8 équipes et d'un marché de créateuristes autour du collectif Fulmine. Alors, le Roller Derby, on a pu le voir dans la série Derby Girl, de Nicolas Lange avec l'incroyable, je l'adore celle-ci, Sophie-Marie Laroui, ou encore dans le film de Drew Barrymore, Bliss avec Elliot Page. Voilà ce que j'en ai compris, moi. C'est un sport de contact et pendant 2 fois 30 minutes, période elle-même découpée en 15 fois 2 minutes, deux équipes de 15 ou 14 joueuses juchées sur des quads. Alors ça, c'est ce que j'aime, c'est des patins à roulettes avec deux rangées de deux roues, c'est pas les trucs en ligne où on se casse la figure. Ces deux équipes, elles s'affrontent sur une piste qu'on peut appeler un track, elle est plutôt de forme oblongue. Le but du jeu étant que la jameuse passe le pack adverse et surtout la bloqueuse du pack adverse autant de fois que possible en 2 minutes, en patinant très vite, en sens inverse du jeu. Pendant ce temps-là, le pack adverse tente de l'en empêcher et les coéquipières de la jameuse tentent d'empêcher le pack adverse de l'en empêcher. Et tout ça avec des arbitres, des blocages, des pénalités, un chronomètre. Et à quoi on reconnaît la jameuse ? Ben c'est, si jamais vous allez voir un match samedi, et ben c'est celle qui a une étoile sur son casque. Et on va voir tout de suite si j'ai bien compris ou pas les règles avec mes deux invités du jour. Chocapic en 3 mots et Cuicuit en 1 mot. Bonjour à vous mesdames.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Est-ce que j'ai bien compris les règles ? À peu près.
C'est un très bon résumé.
Ouais.
Je pense que vous avez peut-être perdu quelques personnes, mais c'est vraiment ça en fait. Il y a ce côté en fait course. Pour résumer très grossièrement, il y a vraiment ce côté course où la personne avec l'étoile va faire le plus de tours possible. Et après, on va avoir les autres catégories de joueuses qui vont plutôt être là pour ou bloquer l'étoile adverse ou aider son étoile à passer.
C'est vraiment ça. En bloquant les autres.
Exactement.
Voilà. C'est ça. Et donc, il y a du contact.
Tout à fait.
Alors, ça existe depuis quand, le roller derby ? Parce que je crois que c'est assez vieux, non ?
Ouais. Moi, d'après ce que j'avais compris, faut remonter quasiment à 1930, même bien plus loin. En tout cas, dans la forme, enfin, c'était pas sous cette forme-là, c'était plus des courses de roller, enfin, des courses de vitesse. Et c'est au fur et à mesure des années où, en fait, on a commencé à établir des règles un peu plus. Et en fait, avec la Seconde Guerre mondiale, ça plus ou moins disparu, puis après c'est revenu, mais pas sous la forme qu'on connaît actuellement. C'était plus vraiment du show, du catch, enfin vraiment du show sur roulette, du catch sur roulette et tout. Et sur track incliné, du coup, comme ce qu'on voit dans
la piste. La piste donc s'incline et il faut en plus faire l'effort de monter. Quoi.
Ouais, voilà. Mais ça c'est vraiment typique d'une région en plus des États-Unis parce que c'est vraiment typique du Texas. Et le reste, si je me trompe pas, non, après je peux peut-être me tromper, mais voilà. Et après, en parallèle, s'est développé le flat track, donc c'est-à-dire le derby sur track plat. Voilà, puis après c'est plus arrivé dans les années 2000 où il y a vraiment une réappropriation de ce sport-là, le côté do it yourself, le côté girl power, enfin voilà et tout. Mais il faut attendre vraiment les années 2000 pour qu'on connaisse le derby. Tel qu'il est aujourd'hui.
Et donc, ça nous vient des Amériques,
ouais,
des États-Unis. Ouais. Est-ce qu'il existe une fédération, alors aux États-Unis peut-être, mais en France, est-ce qu'il y a une fédération ?
Tout à fait. En fait, c'est pas une fédération de roller derby à proprement parler, mais on fait partie de la Fédération française de roller et skateboard. Donc en fait, on est comme il y a le roller artistique dedans, comme il y a le skateboard, etc. Le roller hockey également. Donc on fait partie de ça pour avoir une structure en fait qui nous permette notamment d'organiser des championnats
et peut-être d'être
sportive.
Et peut-être aussi d'être au JO prochainement, puisque le skate a été au JO l'année dernière.
La question s'est posée.
Ouais.
Il y a eu des débats en fait au sein des différentes ligues. Il y a des ligues qui préfèrent un peu le côté underground, un peu le côté schlag, si je puis me permettre. Donc, en fait, de s'organiser comme on peut et comme on veut. Et il y a aussi le côté très sportif et des ligues qui veulent être vraiment reconnues en tant qu'athlètes de haut niveau. Parce qu'en fait, c'est un sport qui est quand même demandant. Et en fait, on est des athlètes. On fait du sport, mais on est quand même des athlètes.
Il faudrait qu'il y ait cette reconnaissance tout en gardant le côté underground.
En fait, ouais, comme aussi le derby est un sport politique.
Voilà.
Il y a aussi ce côté-là qui freine un peu.
J'allais y venir. C'est ça. J'ai présenté le sport en début d'émission en disant que c'était un sport militant, féministe et inclusif. En quoi il est tout ça, le roller derby ?
Alors, pour le côté inclusivité, c'est-à-dire que on va respecter en fait l'orientation et le genre de toute personne, comment la personne a envie de se présenter et pas ce qu'elle va refléter visuellement en fonction des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye d'insister, vraiment que en fait on est un endroit où on peut s'exprimer. On a la place et
c'est
on prend
endroit,
cette place.
C'est un endroit safe, voilà. On est
exactement.
Qui on est et voilà.
Tout à fait. Également, on essaye d'être inclusif sur certains handicaps, notamment sur les personnes qui ont certaines déficiences visuelles ou auditives, où en fait, on va adapter nos règles pour que cette personne-là puisse quand même participer à ce sport-là et être en haut niveau également, malgré ses handicaps.
Féministe.
Et bah féministe parce que c'est
un sport de contact, donc on n'a pas forcément.
Ouais, il y a un peu ce. Tu me dis hein, si. Je...
Ouais. Mais c'est vrai que la partie inclusive, elle est beaucoup plus facile à déterminer, en tout cas voilà. Et féministe, parce que du coup, initialement, c'est politique. En fait, en gros, c'est vraiment se réapproprier un sport, mais où on a notre place aussi, parce que justement, enfin, la place des femmes dans le sport parfois est assez peu. Poser problème, alors que là, en fait, on peut occuper l'espace. C'est ça. C'est vraiment dans. Enfin, moi, en tout cas, je le définis comme ça. C'est parce qu'on peut occuper l'espace. On peut vraiment. Voilà. Puis on prend en compte pas mal de choses sur les questions. Ouais. Par exemple, on sait qu'on peut pas pratiquer le sport de la même manière quand on est un homme ou une femme parce que, il y a la question des règles, il y a la question de. Voilà. Donc, c'est réfléchir comment on peut adapter aussi parfois certains aspects du sport liés à ça. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je le traduirais, en tout cas personnellement, c'est tout ça n'engage que moi toujours, d'un point de vue féministe et engagé de ce point de vue-là. Quoi.
Alors, je rebondis sur ce que tu dis par rapport
Cui-cui te fait le geste de rebondir.
Ça, c'est des
malgré les 38 degrés dans le studio.
Pour le côté féministe aussi, je pense que c'est un sport qui casse les codes de ce qu'on attend de la féminité. Et de fait, c'est quelque chose de féministe. Parce qu'en fait, on n'a pas d'attente de stéréotypes féminins dans ce sport. C'est qu'en fait, on vient comme on veut, on a le corps qu'on veut. Et en fait, il n'y a pas de prérequis pour faire ce sport.
C'est à l'inverse du patinage artistique.
Par exemple,
où on attend des patineuses. C'est pas elle que j'incrimine, loin de là, mais qu'elle porte elle juste au corps, qu'elle soit comme ci, comme ça. Et pour autant, on a critiqué aussi leur corps quand elles ont des cuisses, parce qu'il faut des cuisses pour tenir sur des patins.
Oui.
Et c'est vrai que vous prenez le contre-pied. De ça.
Et si je puis rajouter quelque chose, il y a aussi ce côté de prendre l'espace mentalement et physiquement.
Physiquement aussi, ouais.
Parce qu'en fait, il y a ce côté-là de. En fait, on a besoin de tous les corps pour pouvoir faire le derby. Ça me fait penser un peu au rugby où, en fait, il y a différents postes et différentes morphologies au rugby. Et je retrouve un peu ça dans le roller derby où, en fait, tous les corps et toutes leurs spécificités auront des avantages et des inconvénients. Et c'est cette diversité qui nous permet de faire des stratégies et d'évoluer dans ce sport aussi.
Vous êtes combien de joueuses au roller derby Rennes ?
de licenciés.
Ouais, de. Alors, il y a que des filles, enfin, en tout cas, alors, des personnes qui se définissent comme filles ou femmes.
Alors, justement, non. En fait, on est plutôt, de plus en plus, on essaye de s'éloigner aussi de ce côté un peu girly et vraiment fille. Parce qu'en fait, au niveau des médias, ça a souvent été le cas. C'est un peu les filles qui font de la bagarre en rési, quoi. Et donc, il y a aussi un côté assez sexualisant, que je trouve, en tout cas.
Ouais.
Et de plus en plus, on essaye de s'éloigner de ça et d'inclure aussi les personnes qui se définissent ce genre différemment, que ce soit des personnes trans, que ce soit également des personnes non-binaires. Et en fait, la question du genre, chez certaines personnes, elles n'ont pas besoin de se la poser dans ce cadre-là. Et donc, ça peut être aussi reposant pour ces personnes-là. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye de parler en et d'écrire tous nos textes en écriture inclusive, par exemple, d'essayer d'avoir une neutralité dans les accords, par exemple. Et également, on le voit aussi à Nantes, qui s'appelait Les Duchesses. Et maintenant, ils ont changé leur nom pour Duc.Chesse.
Parfait.
Voilà. Donc,
moderne.
C'est ça. Et aussi, dans d'autres ligues, on avait beaucoup de ligues qui finissaient par girls. Et donc, tout ça, c'est en train de changer. Ça, c'est vraiment ça en ce moment.
Et le roller derby Rennes, il est né quand ?
2009.
Ah ouais, c'est ça, ces périodes. Ouais.
C'est une des plus anciennes ligues de roller derby français. Ouais. Et du coup, c'était vraiment ce côté un peu plus girly.
Oui, à l'époque, c'est ça, c'était ça qui était mis beaucoup. Enfin, moi, l'image que j'en avais, c'était ça. Et en fait, se rendre compte que, effectivement, on essaye de se détacher de tout ça. Enfin, il y avait le côté un peu avec les t-shirts de match officiels, mais en bas, enfin, bref, c'était vraiment ultra. Enfin, oui, c'est ça, les barésies et tout. Enfin, moi, l'image que j'en avais, c'était ça. Et en fait, je me rends compte que, c'est pas gommer ça. Il y a toujours le côté un peu fun où on se met des paillettes et tout, voilà. Mais essayer de gommer un peu cette partie, effectivement, ultra sexualisante ou haute ou ultra girly.
Objectifier.
Ouais, voilà, c'est ça, objectifier.
Qu'en fait, on souhaite être vu via notre sport avant d'être
vu pour vos looks. Voilà. Et,
c'est ça. This is Final School.
Et alors, moi, l'une des questions qui m'est venue en premier, c'est est-ce que c'est dangereux ? Moi, j'adore ça, juste le roller. Mais le roller comme le vôtre, le quad, là, avec, parce que j'étais enfant dans les années 80. J'ai grandement souffert des trucs en ligne, puisque j'en ai perdu une dent.
Le petit trauma.
Petit trauma. Donc, je suis vraiment team quad et j'ai toujours été attirée par le roller derby, mais je me dis, putain, c'est hyper dangereux.
Alors, comment dire que là, nous, on est présente ici ce soir parce qu'en fait c'est les deux éclopés, voilà.
Les autres sont en train de s'entraîner.
C'est ça. Mais pas que. On va pas mentir, ça reste un sport sur des roues, ça reste du contact, donc ça comporte des risques. Ça, c'est évident.
Comme beaucoup de sports, en fait.
Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que parfois les blessures peuvent être peut-être un peu plus impressionnantes et pas, parce qu'il peut y avoir des petits bobos et en même temps des blessures assez impressionnantes. Mais non, on va pas se cacher, il y a un risque. Après, ça dépend de est-ce qu'on va s'entraîner quand on est fatigué, est-ce qu'on a bien mangé avant, est-ce qu'on a bien dormi,
qu'on est bien équipé aussi peut-être, je sais pas, avec les coudières, genouillères.
C'est une obligation, ça par contre c'est une obligation, protège-dents
comme au rugby, on parlait du rugby,
ça c'est obligatoire.
J'aurais peut-être pas perdu ma dent alors.
peut-être.
Pour vous résumer, pour ceux qui viendront du coup samedi nous voir, en fait on va avoir une petite armure quand même, c'est-à-dire qu'on va avoir l'intégrale des protections, donc ça va être un casque spécifique, un protège-dents, des coudières, des protège-poignets et des genouillères. Donc vraiment, on a quand même une sacrée protection qu'on n'aurait pas au rugby, par exemple.
Ouais, c'est entre le rugby et puis je pensais au goal de hockey.
Oui, je vois. Alors, on n'est pas jusqu'à là. C'est vraiment, je pense, l'intermédiaire. Je pense que c'est plutôt l'intermédiaire.
C'est entre les deux.
C'est ça. Donc, on reste quand même assez mobile avec nos protections.
Alors, avant qu'on ne parle de ce qui se passe demain à la patinoire de Rennes, une question, je suis sûre, qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un surnom et comment vous faites pour les choisir ? Je ne sais pas laquelle de Chocapic ou Cucuit va nous répondre, mais...
Comment... Bah, toutes les deux, parce qu'après, il y a des histoires différentes derrière chaque derby name, mais en fait, c'est un peu une sorte de tradition et de passage, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand on commence le derby, on commence avec l'année fraîche, donc c'est vraiment l'année où on s'entraîne, où on va vraiment débloquer des skills, parce qu'après, on nous lance pas comme ça sur le track, et en fait, c'est pendant cette année-là où on va se créer notre identité, enfin, notre identité entre guillemets, mais où on va se construire peut-être notre derby name, donc au départ, on commence, on n'a pas forcément d'idées, mais c'est en rigolant avec les coéquipières, c'est en disant ah ben tel trait de caractère ça me fait penser à ça, un jeu de mots et tout. Et en fait, pour moi, le derby name, ouais, c'est ça, c'est un peu le rythme. Ça marque un peu le passage aussi où j'ai eu mon année de fraîche, j'ai construit un peu mon identité aussi de derby pendant cette année-là et j'ai monté en avancée et j'ai monté avec ce derby name. Après, c'est pas une obligation, on a des personnes qui n'ont toujours pas trouvé de derby name et c'est pas grave en fait.
Je vous en prie, Chocapic.
Je rebondis également dessus. Oui, en fait, je suis vraiment d'accord avec ce que Cucuit dit. Évidemment, c'est pas une obligation et je pense qu'il y a peu de choses qui sont une obligation dans le derby. Mmh. Mais le derby name, c'est une façon de se présenter aux autres. En fait, et c'est là aussi que l'espace dans le roller derby, par ce derby name là, permet aussi cette inclusivité. En fait, c'est qu'on se présente comme on a envie de se présenter. Et en fait, oui, c'est un truc de ça peut être des backstories, donc des origines de chute, ça peut être des origines, et c'est des derby names qui peuvent évoluer aussi dans le temps.
Oui, dans le temps, ouais, c'est ouais, pas figé.
Alors si je reprends choc à pic, ouais. J'ai dit en trois mots, choc comme
le choc,
et pic,
PIC,
à ah ouais,
comme
moi j'avais pas,
voilà.
Ouais, c'est ça, donc je commence à, bon, j'irai pas sur Cuicuit.
Oui, c'est ça, on passera.
C'est plus tard dans la soirée.
On passe, ou les entraînements du lendemain, j'imaginais plutôt ça.
Surtout que j'ai eu mon derby name avant de commencer le derby en plus.
Donc, ouais. Alors demain, il se passe quoi à la patinoire? Il y a 4 matchs.
Ouais,
donc il y a 8 équipes qui vous rejoignent à Rennes et je crois qu'elles viennent d'un peu partout en France,
oui.
Grenoble, non?
Alors donc on va avoir donc 4 matchs de 4 niveaux différents. Donc des personnes qui ont commencé cette année le derby à des personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience. Et pour les différentes équipes, du coup, on a Coutances qui va venir
Normandie,
tout à fait,
c'est ça.
Qui va affronter donc nos fraîches. On va avoir également les Golden qui sont de, je ne sais jamais les.
Je sais pas si c'est, non, c'est pas Grenoble.
Non, je crois pas.
Je suis très au fait.
Après, on peut retrouver le programme
de
ce qui se passe. Parce qu'il y a des matchs, ça commence à 10h, mais il y a aussi
un marché
de créaturistes qui est organisé par Fulmine. Et Fulmine, on n'en a pas parlé.
Ouais.
Est-ce que vous êtes membres, toutes les deux, du collectif Fulmine ou c'est associé avec le roller derby Rennes?
Donc nous, non.
Non.
Mais on a une joueuse.
Cropote.
Qui s'appelle Cropper, qui fait partie de ce collectif-là, et qu'on a profité, en fait, parce que la patinoire Le Blize est très grand, et en fait, c'est rare qu'on ait des espaces aussi grands, et du coup, Cropper s'est dit que ce serait une bonne idée, du coup, de pouvoir inviter des créateuristes qui n'ont pas forcément de visibilité, parce que être créateuriste, ça peut être une situation précaire. Du coup, ça pourrait... profiter de cet événement-là aussi pour...
C'est une excellente idée. Donc, on peut regarder les matchs.
Tout à fait.
On peut aller au marché de créateurs. Ça sera pas mal parce que je crois que c'est la journée la plus chaude de la semaine.
Ouais,
donc, de 10h à 18h, on peut être un peu à la fraîche.
Ouais.
On peut être en tout cas sous les 35 degrés.
C'est ça.
Et venir profiter de tout ça, de voir les matchs, d'aller acheter des choses au marché des créateurs. Créateuriste.
Come on.
Derby.
What's going on?
Roller derby.
J'ai deux dernières questions. La première, c'est comment on fait pour vous rejoindre si on a envie de faire du roller derby?
Alors, très bonne question. Venez.
demain déjà, soyez là.
Oui, venez nous rencontrer demain déjà. Ça peut être déjà une bonne introduction. Et après, normalement, il me semble que c'est le dernier week-end d'août et premier week-end de septembre où on organise des initiations. Où en fait, en façon, on vous communique ça sur nos réseaux sociaux et à l'avenir sur notre futur site web. Et voilà, n'hésitez pas à vous, vous abonner, comme ça vous serez informé du coup des initiations.
Des événements.
Et on fait et des événements également. Et en fait, pour les initiations, on fait du prêt de matériel également. Donc en fait, si vous voulez venir découvrir ce qu'est le roller derby et bah, patiner déjà pour voir aussi si ça vous convient ou pas, n'hésitez pas à passer aux initiations également.
Et puis si vous venez demain, vous entendrez les jingles qu'on a parsemés là dans l'émission, qui ont été réalisés par, je crois, Epi. Ouais, c'est ça. Roux.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
C'est Epi et
je crois que c'est tout. Ouais,
voilà. C'est déjà pas mal. Je vous avais demandé un morceau de musique. Vous m'avez proposé, je crois que c'est un choix collégial, celui de Rebel Girl de Bikini Kill. Pourquoi ce choix avant qu'on lance la musique?
Bah parce que c'est assez rock'n'roll, donc je trouve que ça illustre bien aussi
la bagarre,
le roller derby. Puis bah parce que c'est un bon groupe. Enfin moi je sais pas. Il y a eu un vote. C'est en mode oui ça parce que bah ça nous convient.
Ouais, c'est un excellent groupe, mais c'est une très bonne chanson. Mais c'est aussi un peu à l'image, à la fois gay et un peu rebelle et un peu combattante.
C'est
combattante
ça.
À la fois sur le track, mais peut-être aussi à l'extérieur dans le militantisme.
C'est okay. ça, et au quotidien.
Et ben, on va s'écouter ça tout de suite pour finir l'émission. Merci Chocapic.
Merci à vous.
Cuicuit. On vous voit demain à la patinoire de Rennes de 10h à 18h pour assister à des matchs de roller derby et assister à un marché de créateurs organisé par Fulmine. Et donc on se quitte avec Rebel Girl de Bikini Kill. Et surtout, ben, hydratez-vous bien, restez à l'ombre. Ne faites pas trop de mouvements brusques. Voilà, prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.
She got the hottest track in town. That girl, she owns.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.